lui dites pas « Oh, t'as réussi, c'est génial », il en a horreur. Et pourtant, il a fallu s'accrocher pour arriver là où il est parvenu. Le prénom que lui ont donné au berceau ses parents, tous deux d'origine marocaine, présageait déjà de son destin. Mantasser, victorieux en arabe. Tout un programme. Mantasser Jabran est mon invité du jour. Ce sont des parcours de combattants comme lui que je vous invite à venir découvrir tout l'été sur France Inter. Ceux obligés de se battre pour arriver là où ils sont aujourd'hui, là où on ne les attendait pas, redoublant d'efforts au prix de sacrifices. Je vous invite à mettre la lumière sur ces compagnons de galère qui ressemblent à tant de millions d'autres. Les batailles menées, les obstacles franchis, les discriminations parfois aussi, dans une France qui a bien du mal à faire respecter l'égalité, mais où ils ont enfin trouvé leur place. Des parcours de combattants qui éclairent la France d'aujourd'hui, la France de demain.
France Inter. Nassira El Mouadem, parcours de combattant.
Bonjour Mantasser Jabran.
Bonjour Nassira.
Merci d'être en notre compagnie ce samedi. Vous êtes le fondateur d'une application qui s'appelle HandyCatch, le Pokémon Go de l'emploi, comme vous l'avez surnommé, la première au monde à utiliser la géolocalisation et la vidéo pour un objectif de recrutement. Alors le principe est simple, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous téléchargez l'application et votre téléphone va vibrer lorsque vous allez croiser un recruteur qui recherche un profil qui correspond au vôtre. J'ai bon ?
C'est ça, ouais.
Comment vous est venue l'idée de cette application ?
Je me suis retrouvé à un forum pour l'emploi, donc organisé par des spécialistes de l'emploi. Et on m'a dit « Bonjour monsieur, il y a des forums pour les gens comme vous ». Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement les gens comme moi? Est-ce que ça veut dire les gens issus de l'immigration? Est-ce que ça veut dire les gens qui viennent de sortir, enfin qui viennent d'être diplômés, donc les jeunes entre guillemets? Ou est-ce que ça veut dire, et je pense que c'est ce que c'était, les jeunes en situation de handicap, parce que ça se voit pas à la radio. Donc c'est la magie de la radio, mais je suis en fauteuil. Et du coup, c'est pour ça qu'on a développé l'application qui s'appelle HandyCatch. Donc c'est handy comme pratique. Et catch comme attraper. Et c'est le Pokémon Go de l'emploi parce que vous marchez, ça vibre et vous trouvez un travail. Donc,
ouais. Et l'application doit être rendue publique en septembre prochain. On va remonter ensemble tranquillement l'horloge de votre vie, Mantasser Jabran. Vous avez 32 ans.
33.
33 depuis pas longtemps.
Ouais.
Vous êtes né en 1988.
C'est ça.
Jusqu'à vos 8 ans, vous grandissez en HLM, dans le quartier populaire de la Tabellionne, à Vernouillet, commune de 12 000 habitants, collée à Dreux. Elle ressemblait à quoi, votre enfance, dans cette cité?
Bah, j'ai envie de vous dire, c'est entre fraternité et solidarité, même si c'est deux mots qui font écho et qui vont nous rappeler aussi la France dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était cosmopolite. J'étais la seule personne en situation de handicap de ma cité, et je l'ai pas ressenti en fait, mais je l'ai ressenti après quand je me suis retrouvé justement dans un établissement spécialisé. Mais j'étais en ZEP, j'étais donc en zone d'éducation prioritaire, et j'étais la seule personne en situation de handicap de mon école.
Et à la cité, le handicap c'était pas un sujet?
Non, parce que de toute façon on est des enfants. Et qu'à partir du moment où on peut réfléchir, et mon handicap m'empêche pas de réfléchir, donc c'est sûr que je vais pas aller faire le funambule au cirque. Je vais pas faire peut-être la même chose que les autres. Je vais être un peu plus lent que les autres dans certains sports et encore. Mais après, l'école est un sport et j'ai réussi à me distinguer dans ce sport-là, donc ça va.
Et vous avez 8 ans quand vous emménagez dans le quartier pavillonnaire juste à côté de la cité HLM. Il est synonyme de quoi pour vous et vos parents, ce changement?
Bah déjà, c'est à la naissance de mon dernier petit frère. Et je pense que pour mes parents, c'est un synonyme d'accomplissement, quelque part. Une certaine forme de réussite. Après, pour nous, c'est aussi une certaine forme d'aisance quelque part, parce que même s'ils ont continué à travailler toute leur vie pour nous apporter le confort dans lequel on est aujourd'hui, tout le monde n'arriverait pas à sortir de la cité aussitôt.
Vous étiez les premiers à sortir de la cité et à construire une maison?
Ouais, en fait, on a acheté cette maison, comme je disais, à la naissance de mon petit frère, et c'est vrai que personne ne l'avait fait avant mes parents. Ça a suscité des vocations aussi derrière, parce que tout le monde a vu après que c'était possible.
Ouais.
C'est un peu de famille, le fait de montrer un peu que c'est possible de faire les choses. Moi, j'ai fait que suivre, en fait, d'être sur la lignée de mes parents. C'est important de le souligner parce que Beaucoup de gens ont tendance à dire « je me suis fait tout seul », etc., etc., mais c'est pas vrai.
Cette histoire d'habitat, elle ressemble un peu à la mienne. Moi aussi, j'avais 8 ans quand on a emménagé dans un pavillon à Romorantin, dans le Loir-et-Cher. Alors, on est dans la même région, hein, c'est le centre-val de Loire. J'avais vécu jusque-là en HLM, à Selles-sur-Cher, un petit village juste à côté. Et je me souviens que mes parents étaient super fiers de cette évolution, qu'on ait un jardin, qu'on ait notre maison à nous, finalement. Et on avait créé de nouvelles relations de voisinage, évidemment, de nouvelles amitiés qui perdurent encore aujourd'hui. Mais à la différence de la vie en HLM, c'était un nouveau rapport aux autres qu'il fallait construire, celui de ne pas se faire remarquer, de ne pas faire trop de bruit. Mes frères adoraient le football et ils devaient toujours faire attention de ne pas envoyer le ballon chez la voisine d'en face, de ne pas être trop bruyant les soirs d'été. Il y avait un côté, on était chez nous, mais il fallait quand même qu'on se fasse toujours un petit peu discret. Moi, je l'ai vécu un peu comme une petite pression. Est-ce que vous l'avez vécu aussi comme ça ?
Bah, c'est très générationnel, en fait. C'est la génération de nos parents qui nous ont toujours dit... Et moi, je l'ai vécu aussi en allant derrière à l'internat. Mon père me disait « Sois discret, fais pas de vagues, reste concentré. Il faut savoir qu'on paye pour toi, pour que tu puisses te retrouver ici. Que c'est pas évident pour nous. » Donc, c'est vrai que quand vous êtes un enfant, même si c'était 2 ans plus tard, donc à 10 ans, on comprend pas tout à fait ce qui se passe. On sait qu'on mise sur nous, sauf que j'ai 10 ans, les gars. Donc je suis pas encore conscient de ce que je vais accomplir, mais à l'époque, on le sait pas et on utilise cette pression de manière positive, je pense.
Vous êtes enfant d'une grande fratrie, 5 enfants à la maison. Vos parents sont arrivés du Maroc dans les années 80.
Ouais.
Votre père a longtemps été ouvrier à l'usine Philips de Dreux, qui fabriquait des tubes cathodiques, c'est pas facile à dire, cathodiques, pour les écrans de télévision. Ouais. Avant de devenir contremaître, votre mère est médiatrice à la mairie de Vernouillet, donc à côté de Dreux. Est-ce que lorsque vous étiez enfant, vous aviez quand même conscience du milieu social dans lequel vous avez grandi ?
Ouais, je savais qu'on était de ce qu'on appelle communément la classe moyenne. Après, j'ai pas ressenti de manque en réalité, et ça c'est important de le dire. C'est-à-dire que même quand on était à la cité, on était heureux, on a des bons souvenirs de ça. Et après, on a eu la chance d'être les premiers. Donc mes parents, ils ont un peu insufflé une conscience et une exemplarité aux autres.
De quelle manière ?
Quelque part, quand vous arrivez à changer de lieu de vie, même si c'est juste à côté... Déjà, c'est un exemple pour les autres. Et même en termes de... Même moi, de toute façon, le fait d'être parti à l'internat et pour les autres, pour ceux de là où moi je suis issu, je vais à Paris, même si c'est pas à Paris. Je vais à Paris, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
C'est comme ceux qui sont à l'étranger, en fait, on vient tous de Paris. Quand on se croise entre Français à l'étranger, on vient tous de Paris, même si c'est pas vrai, même si on vient du 93, du 92, il y a pas cette logique-là. Donc moi, je vais à Paris et donc on est en train de miser sur moi. Et quelque part, ça voulait dire que mon handicap pouvait être un frein pour les autres, mais mes parents voulaient pas me le faire ressentir. Et il y avait cette notion en fait qui était importante dans la notion d'exemplarité, parce que c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
C'est la voix d'un vendeur ambulant marocain qu'on entend en train de vendre de la pastèque en pleine rue. C'est beaucoup de souvenirs qui remontent pour moi aussi d'entendre cette ambiance. Ça me rappelle les vacances chaque été au Maroc avec mes parents, qui, comme les vôtres, sont nés là-bas. Ça vous évoque quel souvenir pour vous, ceci ?
C'est quelque chose, parce que, si vous voulez, contrairement à d'autres, moi je parle arabe couramment parce que toute ma famille en fait est marocaine, c'est-à-dire que j'ai mes parents ici, mais tout ce qui est grand-mère, oncle et tante et tout ne parle pas français. Donc j'ai beaucoup parlé arabe très très tôt, et même pour vous raconter une anecdote, moi à 2 ans en fait, je faisais déjà des phrases et tout, et à un moment donné, je suis revenu du Maroc des vacances d'été, je parlais plus français. C'est problématique, mais c'est une richesse aujourd'hui parce que j'ai une facilité grâce à ça avec les langues et tout. Et c'est vrai que ce contexte-là et justement les vendeurs itinérants, ça vous rappelle aussi d'où on vient et ça nous ramène à une réalité en fait qui est très très terre à terre. Parce que même si aujourd'hui je travaille dans l'innovation et que je croise des millionnaires tous les jours, bah quand je rentre et que entre guillemets quand je rentre chez ma grand-mère et que je suis en famille, le matin c'est cette personne-là qui a le contrôle des rues et c'est lui qui nous amène à manger et en fait ça vous ramène à des réalités pardon.
Certaines personnes enfants d'immigrés définissent leur rapport à leur pays d'origine comme compliqué, pas vraiment français ici, pas vraiment marocain là-bas. Et vous, ces identités multiples-là, vous les avez vécues comment plus jeune ?
Écoutez, moi j'ai une amie qui s'appelle Wafa, qui définit ça comme notre troisième identité. D'ailleurs, une structure comme ça qui s'appelle la troisième. Et je pense que de toute façon, inconsciemment, quand on était dans la cité tous les jours, on avait ce multiculturalisme, mais c'est un multiculturalisme qui nous définit nous, mais qui définit aussi la France dans laquelle on vit. Et c'est beau parce qu'en réalité, on comprend un peu tous les dialectes, on comprend un peu toutes les langues. On n'a pas cette notion de couleur, on n'a pas cette. Et c'est vrai que ça peut être dur de se positionner. Mais il faut le faire et pour le faire il faut travailler, donc quelque part pour reprendre les parents et tout ça, faut être discret, etc. Et puis après faut essayer de faire de son mieux quoi.
Vous parlez de multiculturalisme, mais il ne faut pas oublier que votre enfance elle correspond à l'arrivée du Front National, là où vous avez grandi à quelques mètres à peine. Nous sommes en 1983. L'extrême droite fait son entrée à la mairie de Dreux à la faveur d'une alliance avec le RPR. Jean-Pierre Stirbois, le secrétaire général du Front National, idéologue du parti, proche de Jean-Marie Le Pen, devient premier maire adjoint en charge de la sécurité. Et voici ce qu'il disait, c'était le 9 septembre 1983 sur Antenne 2.
Je crois qu'il y a une situation donnée avec plus de 30% d'immigrés à Dreux, avec une montée de l'insécurité, une montée du chômage, et j'ai toujours dit que cette montée de ces deux phénomènes était liée à la progression constante du nombre des immigrés à Dreux. Je crois que j'ai dit tout haut ce que la majorité des Drouais pensaient tout bas. Je crois que j'ai eu une action à caractère préventif.
Les immigrés de Dreux ont peur. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Je ne crois pas que les immigrés de Dreux ont peur. J'en côtoie souvent dans la rue. Je leur en serre la main, mais ceux à qui je serre la main, ce sont ceux qui travaillent. Je ne serre pas la main de ceux qui ne travaillent pas, parce que très souvent, et la plupart du temps même, ce sont des délinquants, et je n'ai rien à faire avec des délinquants.
Alors ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, les tenants de l'extrême droite diraient plus ou moins la même chose, mais de manière différente, de manière plus insidieuse. Ce discours-là s'est banalisé, mais avec des mots qui sont aujourd'hui beaucoup plus feutrés. Elle était synonyme de quoi, cette époque, pour vous et vos proches ?
En réalité, cette époque-là, elle était justement. Je pense qu'elle a insufflé le discours de nos parents, c'est-à-dire le sois discret, fais pas de vagues, parce qu'on les a mis dans une logique de c'est vous le problème. Et nous, à la manière de Gandhi, il disait sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc moi, je suis là pour faire partie de la solution. C'est-à-dire que je vais être discret, mais je vais faire mes trucs. Et ça va être des trucs qui vont avoir un vrai impact. Et en fait, c'est ça le défi, c'est montrer par l'exemplarité qu'on va faire sans vouloir trop se mettre de pression non plus.
Sauf que vous avez une dizaine d'années quand ce discours-là, il rentre dans la tête des gens à Dreux et dans les entourages de Dreux. À cet âge-là, quand on est un gamin, comment on le vit ?
Bah, le truc, c'est que moi déjà, la chance que j'ai après à 10 ans, c'est que je vais ailleurs. Donc je suis un peu protégé par ça et je vois aussi un autre milieu social parce que je vais à l'école à Vaucresson, il y a des gens des quartiers populaires, c'est ça. Il y a des gens des quartiers populaires, etc. Mais il y a principalement des gens qui sont dans une situation aisée et même ceux qui sont de banlieue d'Île-de-France, sur le papier ils sont mieux que nous. C'est-à-dire que les gens ils sont là, oui. Je suis à Gennevilliers, je suis à Noisy-le-Sec. Ouais, mais t'es en Île-de-France, en fait. Donc, il y a plus de structures. Après, on est bien. On est bien là où on est, etc. Mais c'est pas l'Île-de-France.
Finalement, le Front National ne réussit pas à s'installer durablement à Dreux. Et vous, vous quittez le cocon familial pour poursuivre vos études dans cet établissement spécialisé à Vaucresson, où vous allez tomber dans la marmite de l'informatique.
Tu feras quoi ? Tu feras quoi ? Tu feras quoi ? Si t'étais moi, t'emmènerais pas plus large que ça. Si t'étais moi, si t'étais moi, tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Si t'étais moi, t'emmènerais pas plus large que ça. Si t'étais moi, si t'étais moi. Facile de regarder de haut, remuer les lèvres, mâcher ton stylo, secouer mes rêves comme au rodéo. Facile de lâcher des mots, aisé de regarder l'heure et de moquer mes nombreuses erreurs, aisé de rabaisser mes valeurs, aisé de casser mon cœur.
C'était Si t'étais moi, signé Clou.
France Inter, parcours de combattant, Nassira El-Moadem.
Nous sommes toujours en compagnie de Montasser Jabran, entrepreneur, et nous allons continuer à décortiquer avec vous votre parcours de combattant. Mais avant cela, quelques remerciements pour Valentine Chedebois, qui a réalisé la programmation musicale de cette émission, Mao de Butler, qui m'a aidé à la préparer, Fanny Cohen-Moreau, qui la réalise, et Ronan Mahé, à la technique. Vous avez réalisé votre scolarité, Montasser Jabran, jusqu'en CM1 dans l'école publique de votre commune. C'était une volonté très forte de votre mère. Pourquoi ?
Parce que ma mère, en fait, est militante à la base déjà au Maroc. Et quand elle revient, quand elle arrive... militante engagée, pour aller vite.
Sur ces questions d'éducation ?
Sur les questions d'éducation, de droits de l'homme avec un grand H, mais surtout des droits de la femme aussi au Maroc. C'était des problématiques qui n'étaient pas évidentes à l'époque. Et elle s'est battue pour ça, elle continue à se battre pour ça dans le cadre associatif aujourd'hui. Quelque part, le fait de m'intégrer à l'école publique dite normale, même si j'aime pas ce terme-là, parce
et avec plein de guillemets.
Si on n'est pas normaux, on est extraordinaire, ou sinon on n'est pas là. Enfin, il faut pas. C'est quand je dis là, c'est vraiment dans le monde, sur Terre, à faire des choses. C'est-à-dire que il n'y a pas de normal et anormal. J'ai du mal avec cette notion-là. Et en fait, pour montrer aussi que j'étais normal, il fallait me mettre à l'école normale. Et puis je m'en suis sorti au final.
Et en CM2, à 10 ans, vous intégrez l'établissement public Toulouse-Lautrec, situé donc à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. L'établissement est loin de chez vous, mais c'est celui qui vous permet de concilier scolarité et suivi médical. Vous intégrez alors son internat et vous y restez jusqu'à vos 20 ans. C'est toute une vie. Comment vous avez vécu votre arrivée dans cet établissement ?
Bah, en réalité, quand j'arrive, j'avais déjà fait une année d'internat à 8 ans, un peu plus jeune, parce que je m'étais fait opérer à 8 ans la première fois, donc je me souviens d'avoir été opéré, parce que je m'étais fait opérer avant, mais on s'en souvient pas. Et du coup, quand j'arrive à 10 ans, j'ai déjà fait un an, donc après, il faut s'adapter, ça prend quelques semaines.
Il faut s'adapter à quoi, précisément?
La difficulté, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis le seul handicapé de ma cité à la base, et j'arrive là-bas, il y a plein de pathologies, il y a plein d'handicaps différents, il y a aussi des valides, d'ailleurs, c'est important de le souligner, parce qu'on est au milieu des autres, même s'il y a un peu moins de valides, mais il y a quand même des valides, et c'est important, je pense, parce que c'est le seul établissement qui le fait à l'époque, et en fait, ça nous pousse à relativiser nous-mêmes sur nos pathologies, parce que comme vous pouvez le voir, moi je suis relativement autonome, donc on se dit, même à 10 ans, par rapport à quelqu'un qui a une maladie dégénérative, etc., j'ai quand même de la chance. Et c'est ça qui est important, en fait.
C'est à l'établissement Toulouse-Lautrec que vous vous familiarisez avec l'informatique. Ouais. L'ergothérapeute qui vous suit, vous avez déjà mis devant une machine à écrire à 8 ans, ouais. Puis quelques années plus tard devant un ordinateur. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie d'enfant, puis d'ado, l'informatique ?
À la base, c'est un outil pour me débrouiller, pour un peu farfouiller, pour essayer de me débrouiller avec une technologie que personne ne comprend à la base. Et en fait, je me rends compte que je peux faire plein de choses avec, que je peux pas forcément faire, ne serait-ce que moi j'ai des difficultés, ne serait-ce que pour écrire, par exemple. Ouais. Et ça me permet d'écrire, ça me permet de me projeter, ça me permet de prendre des notes, ça me permet de faire beaucoup de choses. Et puis, faut se rendre compte que à 8 ans, donc en 96, je suis devant un Mac. C'est les premiers Mac qui sont, je crois que c'est les deuxième ou troisième génération de Mac. J'ai beaucoup de chance en réalité, parce qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, mais c'était pas prévu, quoi.
L'informatique vous poursuit. Mmh. En 2006, vous obtenez votre baccalauréat STT option informatique de gestion. Et 2 ans plus tard, en 2008, vous êtes diplômé en BTS informatique de gestion option développeur d'application, toujours à Toulouse-Lautrec, à Vaucresson. C'est un peu un cocon d'ailleurs pour vous, cet établissement. Et vous marquez les esprits comme celui de votre professeur d'économie et de droit. Elle vous a laissé un message vocal.
Mon cher Montasser, que de temps passé depuis notre rencontre en BTS informatique de gestion au lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson. Oui, ta matière principale était certes l'informatique, mais ton intérêt pour l'économie et les droits que je t'enseignais m'ont immédiatement séduite. Tu étais curieux, voulais toujours comprendre, savoir, débattre, argumenter, toujours à la recherche d'un enrichissement intellectuel. Montasser, tu n'as jamais rien lâché. Ta volonté, ta motivation, tu as su les mettre aussi au service des autres. Combien de copains, copines, camarades as-tu aidé, conseillé? Combien de dossiers as-tu monté pour les épauler? Le temps a passé, tu m'as toujours informé de tes projets et ils étaient nombreux. Et on en a débattu autour d'une bonne pizza à la Défense. De jeune homme, tu es devenu un homme épanoui, toujours aussi brillant, aussi innovant. Tu as embarqué dans ton aventure des copains de lycée que tu n'as jamais oubliés. Quelle fierté, Montasser, d'avoir croisé ta route. Pour toi, Montasser, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tout ce qui t'arrive n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de ton éternel optimisme. Je te souhaite encore plein de belles aventures et je t'embrasse. Frédéric Stempfelé.
Voilà le message de votre professeur de gestion. Elle représente quoi pour vous, cette enseignante ?
Madame Stenfeller, elle est incroyable. Madame Stenfeller, en fait, pour vous raconter une anecdote, moi j'étais toujours dans le débat et dans le fait de prouver que... Et en fait, on a une période où ils veulent supprimer le BTS informatique et ils se battent pour que le BTS informatique qui reste. Et paradoxalement, il y a des profs qui disent que sa matière à elle est moins importante que les matières informatiques, les matières techniques qu'on fait. Et du coup, je fais un pari avec mes profs au BTS blanc.
C'est cool.
Et je leur dis, je vais avoir que des vieilles notes dans les matières techniques et que des bonnes notes dans les matières générales. Et j'aurai mon BTS blanc. Et je me rappelle que je rentre en cours, on fait la moyenne du BTS blanc et la seule manière, et l'examen il est passé déjà. C'est-à-dire que la seule manière pour que j'ai mon BTS blanc, que j'ai 10 de moyenne et que je valide mon BTS blanc, c'est que j'ai 15 en éco-droit. Et je dis à ma prof d'informatique, ouais, bah soyez tranquille, de toute façon j'ai 15 ou plus. Et je connais pas ma note en fait à ce moment-là. Et je la regarde, je dis ouais, j'ai 15 ou plus, Je connais Madame Stenfeller, je connais mes cours et j'ai une bonne mémoire en fait. Et ils le savent. Et en fait, la prof, qui s'appelle Madame Lassiette, que je salue, elle se lève et tout du cours, elle arrête son cours, elle va appeler Madame Stenfeller et pour lui demander combien j'ai. Pour que je me taise en fait, parce que on peut pas faire ça. On peut pas dire ouais, j'ai 15 ou plus et c'est comme ça. Et en fait, elle revient toute calme et elle dit ouais, t'as eu 15 et demi, assieds-toi. Et du coup, ils en parlent après et. Pour la petite anecdote, la moins bonne note que j'ai eue à mon BTS, c'était à l'écrit d'informatique. J'ai eu une sale note. Après, j'ai réussi tous mes oraux et tous mes projets pratiques. Mais la meilleure note que j'ai eue, et c'est grâce à ça que j'ai réussi à remonter pour le BTS après, c'était un 17 en éco-droit. Donc c'était grâce à, enfin quelque part, c'est aussi grâce aux matières générales que j'ai eu mon BTS avec tant de facilité. Donc non, on pouvait pas. Moi, c'était juste pour montrer que on peut pas dire que telle matière est plus importante qu'une autre. Et en fait, comme on sait pas aujourd'hui, en plus, c'est d'autant plus vrai parce qu'aujourd'hui, les gens ils changent de profession pratiquement tous les 3 ans. Donc, on a besoin d'avoir une pluridisciplinarité quelque part.
Et vous poursuivez vos études jusqu'à obtenir un master en ressources humaines et un master action publique, action sociale. Ouais. Et c'est pas gagné pour tout le monde puisque des copains à vous du lycée n'ont pas réussi à s'en sortir après, perdus, sans le cocon dans lequel vous étiez.
Ouais. Ouais, parce que quelque part, on est dans un truc où on est, j'ai envie de vous dire, soit on assume bien notre handicap et il y a aussi le fait que dehors, en dehors de ce cocon, on grandit normalement, entre guillemets, avec tout ce que ça a de normal, même si encore une fois, j'aime pas ce terme. Ouais. Mais et il y a ceux qui, en fait, par leurs parents, par leur entourage ou même par eux-mêmes, ne vivent que par leur présence dans cet établissement et leur manière de grandir dans l'établissement. Vous savez, c'est un peu comme dans les séries américaines où les personnes, ils sont joueurs de foot professionnels et c'est leurs meilleures années et derrière, il se passe plus rien pour eux. C'est un peu ça, en fait.
Vous faites du consulting en informatique. Vous montez votre start-up, vous développez votre application. Vous êtes d'abord en incubateur à la fac de Nanterre pendant vos études. Vous êtes lauréat Pépite en 2017. Puis un an plus tard, vous intégrez la Station F, le plus grand campus d'incubation de start-up au monde, créé par l'homme d'affaires Xavier Niel. Vous découvrez un tout nouveau monde. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous faites vos premiers pas là-bas?
En fait, la première fois que je rentre à Station F, une fois, peut-être un an plus tôt, on vient pour un événement pour rencontrer un entrepreneur français mais qui officie aux États-Unis, qui s'appelle Carlos Diaz, qui avait fait un événement. En fait, c'était un événement interne à Station F et l'invitation, elle avait fuité. Et du coup, nous, on s'inscrit. Et moi, je fais comme j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire je prends un chauffeur, etc. Je viens. Et au final, on me dit ouais, non, tu vas pas rentrer, etc. Et je sais plus comment ça se passe, mais il y a un incubateur partenaire qui arrive à nous générer une invitation, etc. Donc j'arrive à rentrer. Et le premier truc que je me dis quand je rentre dans la station, c'est ici qu'il faut que je sois, en fait.
Pourquoi ?
C'est ici qu'il faut que je sois parce que c'est à notre juste place et en plus c'est là que l'innovation en France se passe. C'est pas que du marketing, il y a des projets incroyables, mais de projets que moi j'ai vus et qui ont vraiment changé ma vision des choses parce qu'on change de rapport à l'argent, parce qu'on change de rapport à la réussite. Et parce qu'en fait, on vit tous la même chose, on vit tous le même parcours d'entrepreneur et il n'y a pas de discrimination. Déjà, chez nous, à Station F, le vouvoiement n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a une culture très américaine et on peut croiser un millionnaire alors que on n'a plus un rond sur notre compte et il faut qu'on arrive à faire tourner notre business. Et en fait, la personne va nous donner des tips parce qu'il va nous dire...
Des conseils.
Exactement, c'est ça. Il va nous donner des conseils et c'est là où justement c'est différent parce qu'il y a une vraie notion de partage.
Et on se dit pas, ce monde-là fait d'étudiants sortant d'école de commerce, d'hommes blancs issus de classes très favorisées, on se dit pas, ce monde-là il m'appartient pas?
Au début si, et puis après on a la chance d'avoir Xavier Niel qui crée un programme qui s'appelle le programme Fighter, qui est fait pour les profils un peu atypiques qui sont pas justement dans le cadre que vous venez de citer. Et même quand je postule à ce truc-là au début, on me recommande. C'est-à-dire que je suis au Maroc et on parle de ce programme-là. Et au début, je me dis, c'est pas pour moi. Et je me dis, on me recommande, donc je vais quand même tenter de le faire. Et je tente et je passe un oral parce que c'est l'un des seuls programmes où on passe un oral, où on veut nous voir en physique et il faut avoir un prototype assez avancé pour rentrer. Enfin, c'est quand même qualitatif et c'est 3% des personnes qui sont prises. C'est le plus sélectif de Station F. Et je suis pris, donc ça donne un nouvel élan à mon projet.
Et il y a quelque chose qui vous importe énormément, c'est l'impact et le changement pour tous. C'est ce que nous verrons après cette chanson qui vous tient à cœur.
Changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
I see no changes. All I see is racist faces. Place hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems heaven sent, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a cheat today,
but you made it in a sleazy way. Sell it back to the kids.
I gotta get paid.
Well, hey, well, that's the way it is.
Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I have to do. But now back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pips back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat.
That's the way it is.
That's just the way it is.
C'était Changes, signé Tupac.
France Inter, parcours de combattants. Nassira El Moadem.
C'est un sacré morceau de rap américain que vous avez choisi là, Montasser Jabran. Une chanson sortie en 1998, 2 ans après la mort du rappeur Tupac Shakur en 1996. Ça s'appelle Changes, donc, les changements. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette chanson?
Bah, pour moi, elle représente tout ce que j'essaye de faire chaque jour, rapidement, c'est-à-dire essayer de changer les choses, de faire que le changement il vienne de nous et que on soit pas constamment dans la plainte ou dans le pessimisme.
Est-ce que vous diriez que les changements en matière d'inclusion, en matière de représentation des personnes en situation de handicap, notamment dans le monde de l'entreprise, avancent vite en France ?
Non, ça avance pas vite, mais ça fait partie de mon travail. Et c'est grâce à des personnes comme Xavier Niel ou son équipe et d'autres qui nous font confiance et qui nous montrent en fait au monde, parce qu'ils ont un projecteur, donc ils mettent le projecteur sur nous, que les choses bougent petit à petit.
I have a dream that one day this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
Comment le présenter encore, Martin Luther King, pasteur et militant des droits civiques aux États-Unis, et son fameux discours I have a dream, prononcé il y a 58 ans jour pour jour, c'était le 28 août 1963. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Martin Luther King, Montasser Jabran?
C'est un game changer.
Ça veut dire quoi?
Un game changer, c'est une personne qui va insuffler justement la réussite aux autres. Et en fait, son discours va perdurer. Il a son discours à 58 ans. C'est un âge, 58 ans. Et il n'a pas pris une ride, en fait. Et aujourd'hui, lui, il a insufflé ça pour ses problématiques à lui. Mais en fait, c'est tellement fédérateur comme discours et ça rejoint tellement de discours et tellement de discours, que ce soit de politique ou de personnes qui sont dans le développement personnel aujourd'hui ou même de nous-mêmes chaque jour, de vouloir insuffler des changements, que on est obligé, enfin de on est presque obligé, parce que obligé n'existe pas, mais on est presque obligé de le prendre en exemple.
Est-ce que vous diriez de vous que vous êtes un militant?
Je dirais pas ça, parce que quelque part les militants sont souvent, enfin, on revoit souvent une image. Il y a toujours un côté négatif qui va revenir, même s'il n'existe pas forcément. Je dirais juste que je suis juste une voix, et que j'essaye de faire que ma voix elle porte. J'aime beaucoup dire que quand j'étais petit, je faisais du bruit et qu'aujourd'hui, je cherche à faire écho. Quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est que aujourd'hui, le but, c'est l'écho que vous allez avoir dans le discours, dans l'impact, encore une fois, et c'est ce qu'on essaye de faire. Après, être le représentant de quelqu'un ou quelque chose, si les gens se sentent représentés, c'est bien, et tant mieux si ça reste dans le positif, mais je suis pas là pour parler à leur place.
Mais c'est pas encore gagné dans le monde de l'entrepreneuriat, et vous arrivez encore d'être confronté à des situations qui sont parfois humiliantes.
C'est humiliant, c'est rabaissant, il faut être solide, mais c'est souvent lié à des croyances limitantes, en fait.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, vous savez, par exemple, si demain, je roule dans la rue, parce que je roule, et que je m'arrête, j'ai forcément un problème. Alors qu'une personne valide qui s'arrête dans la rue, ou ferait le test un jour, personne va lui dire « Bonjour, vous avez besoin d'aide ?» Non, je me suis juste arrêté pour allumer mon téléphone ou pour répondre à quelqu'un. Et en fait, c'est dans la tête des gens. On a forcément besoin d'aide et moi, je suis là pour aider les gens.
Racontez-nous ce qui vous est arrivé aux universités d'été de l'économie sociale et solidaire.
C'était incroyable. Du coup, les universités d'été, c'est un événement en fait qui va réunir des personnes inspirantes. Et en fait, ils disaient, c'est un truc où il y avait une partie du titre de l'événement qui disait « Le monde de demain ». Et du coup, moi, je vais voir les organisateurs et je leur dis « C'est bizarre, on fait pas partie du monde de demain. » Elle me dit « Comment ça ?» Et je lui explique, je lui dis « Bah, je sais pas, il n'y a pas de speaker en situation de handicap. » Et la personne me dit « Ah, mais vous savez, il y a une personne qui est venue et qui a parlé de handicap. » Je dis « Ah, mais elle était valide. » Elle me dit « Oui. » Et je lui dis « Ouais, bah, c'est pas la même chose. » Parce qu'à un moment donné, c'est comme si vous faisiez une émission, je sais pas moi, sur le droit des femmes et qu'il n'y avait que des hommes dans la salle. Et là, elle a compris.
Ça arrive.
Elle s'est dit, je sais, mais c'est dommage. C'est dommage de parler d'un sujet, même si tout le monde peut en parler, c'est bien aussi d'avoir des personnes concernées dans l'audience, quoi.
Désormais, vous faites partie pleinement du monde de l'entrepreneuriat. Depuis janvier 2021, vous êtes lauréat du programme de la French Tech, ouais, qui vous a accordé un coup de pouce financier. Vous êtes également accompagné par des grandes entreprises comme L'Oréal, Randstad Intérim. Vous donnez aussi des cours de ressources humaines, vous conseillez d'autres porteurs de projets. Dernière question, Montasser Jabran, c'est quoi la réussite pour vous ?
La réussite, c'est d'abord collectif. C'est une responsabilité que vous avez tous et toutes envers vous-même d'abord et après envers les autres. Et c'est quelque chose qui doit être collectif et pas forcément individuel, parce que même quand on réussit de manière individuelle, quand Zidane ou Mbappé marque un but, ou quand Benzema il revient en équipe de France, ou quand il se passe des trucs comme ça, ça envoie un message à toute une communauté. Et ça envoie un message dont vous parliez tout à l'heure, qu'on a aussi à la cité, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est soyons fédérateurs avant tout. En fait, on est tous vecteurs de réussite à notre échelle. Et c'est aussi ce qui fait la beauté de notre beau pays.
Merci Montasser Jabran d'avoir accepté notre invitation. Du succès pour le démarrage de l'application. Je vous souhaite à vous et à votre équipe de permettre des milliers de recrutements et de l'impact sur la vie des gens. Vous étiez le dernier combattant à mon micro cet été. C'était un plaisir immense de vous faire partager à vous, auditeurs de France Inter, les récits de vie de ces trentenaires arrivés là où on ne les attendait pas, déjouant tous les déterminismes sans jamais avoir oublié d'où ils venaient.
Merci à vous.
C'était Aléa de Delgrès. Cette semaine dans Des Vies Françaises, c'est la suite de notre rencontre avec Bernard Tillard, cet éleveur laitier de 71 ans dont le troupeau va être abattu en raison d'un cas suspect de tuberculose. On le retrouve chez lui, à Devia, en Sud-Charente, le matin de l'enlèvement.